là, très chers auditeurs, soyez les bienvenus dans l'émission Rencontre Lusophone proposée par Radio Résonance à Bourges. Ce soir, c'est Jeff et moi-même, Hélène, qui animerons cette émission. Et on salue bien évidemment nos deux collègues, Martine et Manu. Ce soir, c'est le grand Jeff qui nous proposera sa chronique culturelle. On connaît bien sa passion pour les musiques de films et on se doute bien que le thème qu'il aura choisi tournera autour du cinéma. C'est vrai ou pas, Jeff ?
Eh oui, j'ai choisi un auteur, un réalisateur et un acteur, le même. Et vous verrez, c'est très sympa.
Quant à ma petite chronique de ce soir, j'ai choisi de vous parler d'une tradition typiquement portugaise, encore en vogue dans de nombreux villages. Il s'agit du feu de Noël, qui n'est pas tout à fait un feu comme les autres. Il a des pouvoirs surnaturels. On verra ça tout à l'heure. Bora, Jeff ?
Bon, on y va, bora !
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
En cette veille des fêtes de Noël, je voudrais vous parler d'une tradition typiquement portugaise. La nuit de Noël au Portugal, on l'appelle « A Noite do Caramelo », la nuit du caramel. Drôle de nom, rigolo et sympa, me direz-vous, mais quel rapport avec Noël ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs explications à cela. La première est tout simplement liée à l'étymologie même du mot, parce que « caramelo » en portugais, ça veut dire « caramel », tout simplement, mais pas que. Car le mot caramelo désigne également le gel, la glace et plus précisément l'eau froide qui coule le long des toits et des arbres et qui se transforme en glace pour former les stalactites. Un peu comme le caramel qui durcit au contact de l'air. Bel exemple, je trouve, de poésie de la langue portugaise qui décidément nous ramène au goût exacerbé des Portugais pour le sucre et notamment en cette période de fête. Mais pour en revenir à cette nuit du 24 décembre, en réalité, les Portugais lui ont donné le nom de Caramelo, car traditionnellement, ils la considèrent comme la nuit la plus froide de l'hiver. C'est en effet la nuit qui, dans l'imaginaire populaire, étant normalement son grand manteau blanc sur la campagne, et qui par conséquent, et en toute logique, réclame la chaleur d'un bon feu. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande tradition du Noël portugais, Umadeiro, encore appelé Fogueira. Ça, c'est dans ma région d'origine au centre du Portugal, parce que dans le nord, on lui donne le nom de Canhoto. Mais traditionnellement, à Noël, c'est surtout dans la région centre que l'on retrouve effectivement les origines de ce feu béni. C'est d'ailleurs également l'endroit où cette pratique est aujourd'hui encore la plus étendue et la plus pure. Queima do Madeiro do Cepo, comme on dit là-bas. Ce feu de la nuit de Noël, on l'allume à la fin de la messe, la nuit du 24 décembre, mais en réalité, il est déjà là, en préparation depuis le début du mois. On l'installe généralement sur le parvis de l'église et il est destiné à réchauffer tous les villageois. Autrefois, il servait à réchauffer les plus pauvres et traditionnellement, on dit qu'il servait à réchauffer l'enfant Jésus. Et comme je disais tout à l'heure, on commence à préparer le feu de Noël au tout début du mois de décembre. Et ce sont des jeunes hommes qui ont normalement la lourde tâche de sélectionner les troncs et de les installer sur le parvis de l'église. Autrefois, cette mission était donnée aux jeunes qui partaient faire leur service militaire dans l'année. Aujourd'hui, avec l'exode rural, ils ne seraient pas assez nombreux et ce sont donc basiquement des jeunes de bonne volonté qui aiment tout simplement perpétuer des traditions. Ils commencent donc par sélectionner dans la forêt les arbres qui vont servir à former la flambée et qu'ils ramèneront en tracteur dans le village. Ils choisiront évidemment les plus grands troncs de pin ou de sapin afin que le feu soit le plus grand et le plus haut possible. Je sais qu'autrefois on utilisait du bois d'olivier parce qu'il était symbole de paix et que c'était aussi de ce bois qu'était faite la croix du Christ. Et bien évidemment, dans cette fête liturgique qu'est Noël, le profane rejoint très souvent le religieux puisque l'on a coutume de dire que plus le bois du feu de Noël est grand et épais, plus le cochon que l'on tuera dans l'année sera gras. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'on attribue volontiers également à ce feu des pouvoirs surnaturels, puisque l'on dit que le bois qui n'aura pas été consumé sera conservé dans les foyers pour protéger du tonnerre et de toutes les colères divines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, durant toute la semaine que brûlera ce feu, les villageois viendront y chercher les braises pour allumer leur propre cheminée. Et dans cette nuit froide de Noël, c'est donc à l'extérieur et autour du feu que dans quelques jours, les villageois de nombreux petits villages portugais débuteront les festivités. Ils entoureront le feu crépitant en mangeant, en buvant et en chantant.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Aujourd'hui, pour changer, lol, nous parlons d'un grand cinéaste portugais, scénariste et aussi acteur. Je veux parler de Paulo Rocha et de son premier et un des plus grands films, Os Verdes Anos. Os Verdes Anos. Pour l'instant, voyons la vie de Paulo résumée en quelques lignes. Paulo Soares da Rocha était un réalisateur portugais né le 22 décembre 35 à Porto, mort le 29 décembre 2012 à Vila Nova de Gaia, à 77 ans. Sa carrière en chiffres, 14 films à son actif, 34 années de carrière, 2 séries, 7 nominations, 0 récompense. Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays, vous voyez. Distinction, grand officier de l'ordre de l'infante Don Henri. Inspiré par la nouvelle vague et le néo-réalisme, Paulo Rocha est considéré comme un précurseur du nouveau cinéma portugais. Études de droit à Lisbonne et diplôme de réalisateur à Paris, l'IDEC en 59-61. En 62, il est assistant stagiaire de Jean Renoir pour Le Caporal épinglé et de Manuel de Oliveira pour Actes de printemps et à Caça, la chasse. En 64, il réalise Les Vertes années, Os Verdes Anos, primé au festival de Locarno et d'Acapulco. Changé de vie, Mudar de Vida, est primé à Venise en 66. Viennent ensuite L'Auberge des Plaies, à Poussada das Chaias, court-métrage. Et en 71, L'Île des Amours. Il dirige le centre du cinéma portugais entre 73 et 74. De 75 à 83, il occupe le poste d'attaché culturel à Tokyo. Durant les années 90, il réalise deux documentaires de la collection Cinéaste de notre temps, consacrés à Manuel de Oliveira et à Shohei Imamura. En 82, son film L'Île des Amours, à Ilha dos Amours, est présenté au Festival de Cannes. Il y retourne en 98 avec Le Fleuve d'Or, au Rio de Ouro. En 1998, il signe une sorte de tragédie qui puise à la source de diverses formes de récits, tout autant qu'un singulier opéra sensoriel et sensuel. Paulo Rocha aura été un cinéaste rare et secret, auteur d'une œuvre stylisée et contemplative, cosmique et panthéiste, documentaire et discrètement lyrique. Toutes les musiques que vous allez écouter au long de ce dossier sont la musique de Os Verdes Anos par Carlos Paredes. C'était que de l'instrumental, donc en musique de fond. Écoutons sa voix lors d'une émission Microfine par Serge Danet. Un petit extrait, bien sûr.
Et donc j'ai un peu une fonction de père avec Fernando Lopez, de tout un renouveau des méthodes, de l'esthétique. Et finalement, ça a eu beaucoup d'effets pratiques sur les lois, sur le cadre institutionnel, même sur la création d'une école de cinéma. Et donc, quand ça marche mal, je me sens un peu de responsabilité, même avec les films des tout jeunes. Et ça marche mal un peu fatalement, parce que nous n'avons que 10 millions d'habitants au Portugal, le marché en terre est petit. Et c'est une grande culture et très ancienne, la portugaise, mais en même temps elle est fragile, étant donné qu'on n'a pas des frontières tellement vastes qui nous protègent des chocs économiques et politiques et démographiques de l'extérieur comme d'autres pays de la taille de la France, par exemple. Et donc, le problème du Portugal nous devient toujours un énigme, mais en même temps quelque chose de très précieux. Et il y a très peu de pays au monde qui, si petit, est produit un peu par miracle, toujours dans des conditions désespérées, des choses aussi bien. Et donc, on se dit, s'il n'y avait pas eu, à ce moment-là, il y a 3 siècles, il y a 5 siècles, des actes de volonté désespérés, non seulement le pays n'existerait pas. Alors, à tous les niveaux, l'histoire du théâtre portugais, chaque secteur de l'histoire du Portugal a toujours un air un peu miraculeux. C'est la crise permanente, mais chaque 30 ans, chaque 50 ans, on fait des choses importantes et parfois même très très importantes. Donc, c'est quelque chose qui ne vient pas du ciel. Sont des actes de volonté et de risque, toujours au bord de l'abîme. C'est pas facile.
Écoutons une musique des Montagnes de la Lune.
Yeah.
Dans l'Europe des années 60, la révolution cinématographique était dans l'air. Les débuts extraordinaires qui ont émergé de la nouvelle vague française ont été canonisés depuis longtemps. Mais ailleurs sur le continent, une vague différente se construisait. Et un réalisateur de 28 ans en avait la charge. Paulo Rocha était une voix éminente du nouveau cinéma portugais. Diplômé d'école de cinéma, Rocha a réalisé son premier film en 63 avec le chef-d'œuvre lyrique Os Verdes Anos. Œuvre avant-gardiste sortie sous les louanges internationales, le film, dont l'action se situe à Lisbonne, est un portrait obsédant de l'urbanisation, capturant une période de changement sismique pour la capitale portugaise. Sonnant comme un écho rythmique au contemporain italien de Rocha, Michelangelo Antonioni, c'est un examen langoureux, moderniste, du clash entre les sensibilités rurales et citadines, le conte d'un amour blessé, d'un désespoir générationnel et la futilité de la nostalgie. Le deuxième film de Rocha est peut-être encore mieux, Change of Life, Mudar Davida, en 66. Il quitte la ville pour un village de pêche côtier, contrastant avec l'existence dure, tout en travail, de ses habitants, avec un désir passionné pour l'amour impossible. Les sensibilités composites de Rocha sont époustouflantes. Qu'il s'agisse d'arpenter les espaces urbains dans Os Verdes Anos ou les paysages embrumés de Change of Life, Rocha élucide l'impact psychologique de ses environnements habités de façon frappante sur ses rêveurs rebelles. Ses films sont des élégies sensuelles, mélancoliques pour un monde en transition. Deux chefs-d'œuvre restaurés d'un cinéma européen qui se place parmi les plus grands. Écoutons Rise de Curaçao, un thème. Qui nous prennent en route, nous parlons aujourd'hui de Paulo Rocha, grand réalisateur portugais. Il explique qu'un long séjour au Japon lui a inspiré Les Montagnes de la Lune, d'après le roman de Genji, roman de cour, grand classique japonais. Il compare le Japon avec le Portugal, les ressemblances et divergences des deux pays. Il évoque les rapports étrangers de filiation au Portugal et le mythe du roi Sébastien. Après des années de silence, il revient avec L'île des Amours en 82 et Les Montagnes de la Lune en 87, deux films témoignant d'une fascination pour le Japon et son histoire. Il a aussi consacré deux films à des cinéastes, Manuel de Oliveira et Shoei Imamura. Avec Le Fleuve d'Or en 98, il signe une sorte de tragédie qui puise à la source des diverses formes de récits, tout autant qu'un singulier opéra sensoriel et sensuel. Paulo Rocha aura été un cinéaste rare et secret, auteur d'une œuvre stylisée et contemplative, cosmique et panthéiste, documentaire et discrètement lyrique. Sentant que la vie me manque, je suis un peu vampire et dévoreur de la vie des autres. J'écoute les conversations dans les rues, dans les lieux publics. Je me demande un peu ce que cette fille à la fenêtre est en train de ressentir, si elle souffre ou si elle est heureuse. Mais d'un autre côté, je suis presque aussi friand des arbres, des maisons, des rochers, des tempêtes, que du sang et du corps, des mémoires, des contradictions et des désirs des êtres humains. Le monde quotidien me questionne beaucoup. Je connais furieusement ce désir sensuel de possession et d'interrogation des lieux et des objets du monde extérieur. De sorte que je n'arrive pas tellement à faire de distinction entre une attitude documentaire et une attitude, disons, affabulatrice. Toutes les histoires de mon enfance constituaient des débuts de fiction plus extraordinaires les unes que les autres. Et elles ont continué à me hanter, je n'ai jamais pu les chasser de ma tête. Parce que ce sont des histoires sanglantes et extrêmes qui dépassent les normes admises, complètement démesurées, à la fois amorales et très populaires, qui flottaient sans cesse dans la conversation des gens que j'épiais dans mon enfance. C'est à Lisbonne, à la faculté de droit, que j'ai baigné pour la première fois dans une ambiance cinéphile. Des amis partaient à Paris en stop, voyaient 4 ou 5 films et revenaient nous les raconter. C'était la grande époque de la cinéphilie. C'est à l'IDEC que j'ai découvert Mizoguchi et rencontré des cinéastes japonais de passage à Paris pour des rétrospectives. C'est aussi à Paris que j'ai commencé à apprendre le japonais. J'ai eu une chance énorme de rencontrer sur quelques années les films de Renoir, Mizoguchi, Olivera, Lang, Dreyer et ceux de la Nouvelle Vague. Que telle ombre sur un mur, tel espace renfermé, tel accord de couleur puisse me renvoyer à l'univers des formes, cela me conforte dans mes choix. Pourquoi je mets la caméra là, en plongée, en contre-plongée, ne devient clair que très lentement, grâce au jeu des acteurs, au hasard d'une lumière. Ce n'est jamais à cause d'un point de vue préétabli, d'un mouvement affectif collectif, d'une mode. C'est une vérité non absolue, simplement le plus probable au moment où je tourne. Si la réalité des expériences donne une autre version de la réalité, alors je m'adapte. Je filme au fond les questions et les interrogations que je pose au monde, et le monde influe sur les réponses que je trouve. Écoutons maintenant, justement, Carlos Paredes, Verdes Anos.
Thank you.
arrivons à son premier film, celui qui est à l'origine du cinéma nouveau. Des vertes années en 63, Os Verdes Anos, film de Paolo Rocha. Les amours malheureuses d'une domestique et d'un cordonnier à Lisbonne. Sur fond de poésie noire, un drame de la jeunesse des années 60, pour les débuts d'un maître du cinéma portugais, découvert et primé à Locarno en 64. Paolo Rocha, figure incontournable du cinéma moderne portugais, a 28 ans lorsqu'il tourne son premier film, Virtuose, en noir et blanc, Les Vertes Années. C'est un film si mature, avec une telle verve musicale et une telle élégance picturale, qu'on ne peut que s'émerveiller de l'énergie qui était dans l'air en Europe dans les années 60, lorsque les nouvelles vagues du continent prenaient forme. Celui de Rocha est un cas de maturité arrivé rapidement. Dans les vertes années, deux jeunes amants, un cordonnier, Julio, Rui Gomez, et une bonne, Hilda, Isabelle Ruth, sont transplantés à Lisbonne. Parfois nostalgiques de leur village, ils sont souvent éblouis par le rythme soutenu, la douceur et les attraits de cette ville moderne. La modernité et le choc entre l'urbanité et la campagne donnent au film son énergie première. En ce sens, Rocha emboîte le pas à des réalisateurs européens comme Agnès Varda et Michelangelo Antonioni, dont les premiers films montraient le contraste entre la vie précipitée et fastueuse des citadins avec les rythmes langoureux de l'arrière-pays, mais aussi avec la lutte acharnée pour la survie vécue par les gens de la campagne comme par les nouveaux arrivants en ville. Les premières scènes du film montrent Julio apprenant naïvement à se repérer dans Lisbonne, cherchant de l'aide auprès des passants pour localiser une adresse ou ouvrir une porte avec un buzzer, hypnotisé par les filles également habillées dans les cafés et les vitrines luxueuses des magasins. Une bévue idiote le conduit à Hilda, qui, avec sa bonne humeur naturelle et son sens pratique, devient sa chaste chérie et guide. Et pourtant, l'idylle a une mise en garde. L'histoire est encadrée par l'oncle de Julio, Raoul, Rui Furtado, dans la voix off. Comme un cœur grec, Raoul prévient. La ville en a dévoré beaucoup, mais ne m'a pas touché. Connaissant sa place en tant que chic de campagne, Raoul travaille dans la construction civile et revendique fièrement de nombreuses pierres de Lisbonne à son nom. Il y a une pointe de fierté blessée dans son affirmation qu'il vit seul à la périphérie de la ville, dans des quartiers rustiques, exigus, avec les commodités de base, parce qu'il prend son temps. La vie compliquée a endurci Raoul qui brisera le calme et impétueux Julio. Ils ont beau visiter avec bonheur le placard de l'employeur d'Hilda, admirer les tonnes de chaussures, le téléviseur et le service à thé de Fantasy, ils réalisent le fait écrasant que lui et Hilda ne gagnent pas assez d'argent pour vivre seuls. C'est une chute vertigineuse. Les vertes années est redevable au néo-réalisme, mais le dénouement rapide de son final s'éloigne de la véracité psychologique. Un jour, Julio boude après une danse, jaloux. Un autre veut épouser Hilda dans une quête possessive. Un autre encore se laisse aller contre elle. Le film est soutenu par le rythme et l'élégance de ses vanités. La cinématographie époustouflante et limpide de Luc Miro contrebalance le drame et capture de manière vivante la beauté cultivée, quoique lasse, de Lisbonne, ainsi que les pièges consuméristes et l'écart entre les riches et les pauvres qui font naître l'amertume des amoureux. La chanson du compositeur Carlos Paredes, The Green Years, traverse le film, un reflet nostalgique. La musique, qui alterne de plus en plus entre le chant langoureux et le tempo plus soutenu, évoque de la ruée vers la ville, reflète elle-même l'impétuosité croissante de Julio. Dans une séquence remarquable, alors que Julio rumine et que les deux amants commencent à s'éloigner, le subtil flottement de la musique semble porter le poids d'une tragédie annoncée. Écoutons maintenant la musique Mudar da Vida. Thank you. ceux qui arrivent en cours de route, nous continuons d'explorer la carrière de Paolo Rocha avec le film « Changer de vie » en 66, « Mudar de Vida ». Adolino rentre au village après avoir accompli son service militaire en Angola. Il découvre que sa bien-aimée, Julia, Maria Barroso, est fatiguée d'attendre et épouse son frère Raimundo Nunes Vidal. Encore amoureux de Julia, Adolino s'adapte mal à sa vie de famille. Une ancienne blessure l'empêche également de reprendre son ancien métier. Il trouve le travail moins dur à la campagne et rencontre une jeune fille un peu sauvage, Albertina, avec qui il va tenter de refaire sa vie. Rocha utilisera à nouveau la musique avec brio dans son deuxième long métrage, dans la scène dramatique du début, tandis que les notes de flûte s'élèvent sur la bande originale, les deux amants marchent l'un vers l'autre dans les bois. Les virages lents et désorientés de leur corps et leurs pas effrayants et délicats s'entrelacent avec le paysage vertical statique de la forêt. Une figuration si magnifique que c'est l'une des scènes les plus mémorables que j'ai vues d'un désir passionné et interdit au cinéma. À l'instar de la pointe courte de Varda, Agnès, Change of Life est fermement ancré dans les routines et la précarité de la vie des pêcheurs. Des hommes s'occupant des filets et travaillant sur des bateaux, des femmes ramassant des coques sur le rivage, le labeur, la sueur et la peur angoissée de la faim ou d'un mort en mer. La cinématographie luxuriante en noir et blanc de Manuel Carlos de Silva et Elzo Roque laisse place dans certaines scènes à des vapeurs blanchies, des brouillards qui s'échappent de la mer et enveloppent la terre. C'est un complément parfait aux susurrations basses et chaudes entre les amants, alors qu'Adolino avertit Julia de plus en plus frêle et troublée. « Plus jamais tu n'auras la paix !» Les dialogues, écrits par un autre maître du cinéma portugais, Antonio Reich, ont une énergie de va-et-vient enflammée, sautant souvent par-dessus la musique. Alors que The Green Years présente l'innocence comme épuisée ou perdue, Change of Life passe du deuil quand Adolino voit que Julia n'envisera jamais d'être avec lui, plutôt que sa famille à une note plus optimiste. Adolino retrouve un certain appétit pour la vie en rencontrant une autre malheureuse solitaire, la jeune fille Albertina, la même Isabelle Ruth qui brille si fort qu'Hilda dans Les Années Vertes. L'état d'esprit rebelle d'Albertina et les chagrins d'amour passés la lient à Adolino d'une nouvelle manière mystérieuse, au point où il abandonne sa passivité et embrasse le changement. Le talent de Rocha pour explorer la passion passionnée, avec un mélange étrange de feu et de retenue, le retrait sensuel que la grâce de ses compositions instille si souvent, a fait de lui un des réalisateurs les plus remarquables pour aborder le sujet éternel de l'amour troublé et blessé. Nous sommes d'autant plus riches que nous pouvons désormais apprécier ces films magnifiques et mélancoliques. Écoutons Rio de Haut à thème.
Que a Marcelina dormia com maçã no Manel Chico. Ai, se a cama mal fizeres, nela te has de deitar. Quem se dera de prazeres, o pior pode esperar. A dor de corno é mais forte que a mais vera dor de dentes. Ai, tu me anjo da morte, de color duas serpentes. A arma do assassino executou a sentença. Que a grande lei do destino aos amantes não dispensa.
mas Celina ensanguentada ainda pedia perdão. Mas a ira insaciada não pode ter compaixão.
Nous sommes toujours avec Paolo Rocha, réalisateur de films, et nous passons à son film Le Fleuve d'Or au Rio de Ouro en 99. Lorsqu'elle a accepté d'épouser Antonio, le patron déjà âgé d'un petit bateau, Carolina, une garde-barrière, ne pensait pas souffrir des affres de la jalousie. Mais voilà, depuis que le couple vit ensemble, elle doit supporter la présence de Milita, la nièce d'Antonio. Et Milita est une femme magnifique. Toute l'affection que son oncle lui porte est inscrite dans ce jour où, au mépris de sa vie, le vieil homme a plongé dans le fleuve pour en sortir Milita, qui déjà était entraînée par le courant. Depuis ce temps, Carolina ne supporte plus la jeune femme. Aussi, quand un gitan, dans un train, croit voir dans le passé de Milita un meurtre, Carolina décide de devenir l'amante de l'homme pour en savoir un peu plus. Du Douro, le héros titre du Fleuve d'Or, Paolo Rocha dit « C'est le fleuve de mon enfance, un espace magique et violent, la scène naturelle de la passion et du souvenir. » Et c'est exactement tout cela qu'il a filmé. Mais le Douro, c'est aussi le fleuve emblématique du cinéma portugais, depuis qu'Olivera lui a consacré son premier film, Faina Fluvial, et il y a également situé Val Abraham, l'un des plus beaux parmi ses derniers films. Pour dire les choses clairement, c'est au moins à ce chef-d'œuvre-là qu'il faut comparer Fleuve d'Or, la première vraie grande fiction que Rocha nous offre depuis les montagnes de la Lune en 86. Cinéaste rare et énigmatique, grand poète de la lumière et des éléments, documentariste, contemplatif et solaire à ses heures, Paolo Rocha est considéré par beaucoup comme l'inventeur du cinéma portugais moderne depuis qu'il fit surgir nos vertes années en 63 dans un paysage alors terriblement abourri. Tragédie fantastique, sous-titré « L'histoire d'un grand et horrible crime », Fleuve d'Or prend toutes les apparences d'un conte paysan enraciné dans l'épaisseur confortable de la tradition rurale pour mieux nous hypnotiser. Inauguré par le mariage d'un vieux couple pittoresque, le film se conclut par une tragédie fantastique et sanglante que les quatre magnifiques personnages de l'intrigue vont de toute force tenter de fuir. Cependant, ni le batelier, interprété par l'inoubliable João Cardoso, ni la garde-barrière, ahurissante et géniale Isabelle Ruth, ni la douce Milita, Johanna Barcia, émouvante de bout en bout, ni son amant Zé, Lima Duarte, idéal colosse brésilien, marathonien de la telenovela, ici parfaitement distribué en gitan médium et vendeur d'or, n'échapperont au fatum décidé par les dieux du fleuve. Festif et cruel. Mais avant de sacrifier au Douro ses plus beaux enfants, Paolo Rocha leur aura fait atteindre un état de grâce collective comme on n'en voit que très rarement au cinéma. Baigné dans les ruissellements dorés d'une nature explosive, enivré de vin fin, d'anguilles et de miel, solidifié dans ses peurs comme dans ses joies, festif et cruel, mélancolique et joyeux. Le petit peuple des berges, visité par Rocha, aura eu tout le temps de nous faire désirer, craindre et partager son extraordinaire paradis. Dans ce pays de fleurs et de bêtes, d'harmonie limpide et de ciel déchiré par les plaintes des chansons venimeuses, jamais Paolo Rocha ne déploie la chronie touristique. Son art est empathique et son cinéma fait corps avec la terre fertile qui l'a nourri. Tout en caresses et morsures, la balade jalouse au fil du fleuve d'or est une expérience unique, un pur rayon de cinéma astral, aveuglant et mirifique. Écoutons maintenant Costa de Africa, La 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 La.
Atrás de mim e num zum zum diz-me assim Tralalalalala Tralalalalala Mas eu que sou daqui logo ao Romeu digo ali Tralalalalala
la 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 la.
Que delas foi?
Ele volta a insistir e eu parto de ouvir já cedo. E a certa altura então, depois de... Não, não, não. Você tem um ar feliz, bebeu o quê que me diz?
Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la.
E aí, como ele está? Onde é que vai? Diga lá.
Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la.
Nem se usa já falar, mas só cantarolar diz tudo. Nos tempos atuais, interessa muito mais ser mudo. Olá. Virá, agora cá em que a mulher só dirá. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la.
Tra-la-la-la-la-la.
Tra-la-la-la-la-la.
Paul Roche mérite entre tous l'hommage rétrospectif qui avait été organisé à Paris et en province. Roche est une figure discrète et pourtant cruciale du cinéma portugais depuis son premier film. Nos vertes années en 1962, considérées comme l'avant-garde de la nouvelle vague portugaise, Roche a aussi dirigé le Centre du cinéma portugais avant de devenir attaché culturel à Tokyo où naîtra le faramineux projet Île des Amours en 1982 sur la vie, l'œuvre, les amours et la mort de Venceslau de Moraes, grand écrivain portugais obsédé d'Orient. J'ai voulu devenir japonais, en dit aujourd'hui le cinéaste. L'Île des Amours reste l'aventure la plus audacieuse jamais produite par le cinéma portugais, complétée d'un documentaire en 1984. L'île de Moraes, outre d'importants travaux expérimentaux, des essais cinématographiques, des documentaires, tous présents à la rétrospective, Roche a également mis en scène les montagnes de la Lune en 1986. Vous n'êtes pas seulement un cinéaste, vous êtes aussi réputé comme le meilleur connaisseur du cinéma portugais. Comment décririez-vous le paysage du cinéma dans votre pays ?
Le cas du cinéma portugais est vraiment très particulier. Si l'on compare notre histoire avec celle du cinéma espagnol, la différence est très nette. Notre cinéma a toujours été le fait d'un petit groupe qui lui-même a fait des petits. Nous avons eu un cinéma populaire vivant et d'assez bonne qualité jusqu'aux années 50, quand le public urbain, émergent, a commencé à s'enlacer. C'est à cette époque qu'est née une cinéphilie locale spécifique. On voyait beaucoup de films à Lisbonne, mais on voyageait aussi en stop jusqu'à Paris pour en voir. Cette cinéphilie tenait à l'existence d'un groupe d'amis. Ainsi s'est formée une génération de cinéphiles critiques qui allaient aussi devenir cinéastes. C'est nous qui, à cette époque, avons redécouvert Oliveira et l'avons imposé un peu partout. Cette période a culminé au festival de Locarno en 62. Il y avait La Chasse d'Oliveira, Bande à part de Jean-Luc Godard et Nos vertes années de moi-même. Ce dernier film est encore aujourd'hui considéré comme celui de la rupture, l'acte de naissance du cinéma portugais moderne. J'ai eu de la chance. Cela dit, je me rappelle d'Oliveira m'écrivant à ce moment-là « Vous les jeunes, vous avez de la chance. Moi je suis un vieillard, je ne tournerai plus. C'est fini. » Le résultat est qu'il a tourné infiniment plus que moi ou que quiconque. En 71, on a fondé l'école de cinéma de Lisbonne qui, malgré des problèmes certains, continue d'être un haut lieu de cinéphilie. Je constate qu'aujourd'hui encore, les jeunes cinéastes sont toujours dans cette espèce de tradition nationale du groupe d'amis. Même un Pedro Costa, tout original et personnel qu'il soit, nous ressemble beaucoup. Le fait est qu'on n'a jamais eu un marché ou une industrie très organisée et que le public portugais est devenu méfiant à l'égard de tout ce qui vient de chez lui. Mais nous pouvons au moins compter sur une certaine reconnaissance internationale.
Quels sont les signes particuliers de ce cinéma ?
On peut relever un sens commun de l'espace et de la forme. Nous n'avons pas de tradition dans le naturalisme ni dans l'humour. Nous n'avons pas non plus ce côté méchant, ce réalisme intelligent à la Goya ou Velázquez, sauf peut-être Oliveira. En revanche, nous sommes très forts pour les situations oniriques un peu désespérées. Et notre cinéma est souvent lié à la nature, à un goût prononcé pour le paysage. Il y a aussi un rapport spécifique à la littérature. Homme clé de notre cinéma, Antonio Reich est un aussi important poète que cinéaste. Il a par exemple écrit pour mon deuxième film des dialogues qui sont en eux-mêmes un vrai chef-d'œuvre. Du Racine dans la bouche de pêcheur. La plupart des réalisateurs portugais sont capables d'écrire, et d'écrire très bien. Monteiro est un très grand écrivain. Moi-même, j'écris des fictions depuis l'âge de 8 ans. Il y a aussi parmi nous beaucoup d'excellents conteurs. Cela vient de notre désœuvrement, du temps que nous avons passé les uns chez les autres, de nos activités alimentaires annexes.
Le petit monde du cinéma portugais est très concentré à Lisbonne. Pourtant, vous êtes de Porto.
Lisbonne est une ville très ouverte au désœuvrement et qui appelle au rêve. L'une de mes idées favorites est que chaque quartier de Lisbonne pourrait être un univers fictionnel indépendant par les manières de parler, les lumières, les décors. Lisbonne, c'est beaucoup plus compliqué que la ville blanche. Raïs, Oliveira et moi, nous formons une sorte de sous-groupe provincial, de sous-groupe de Porto. Je pense que Porto est, si je puis dire, un pôle polaire de Lisbonne, un inverse. Porto est du côté de la peinture flamande du 15e siècle, épaisseur de l'air, granit, humidité. Lisbonne est plus arabisante, qui mêle poésie et mathématiques. Les cinéastes de Lisbonne ont un travers décoratif et ceux de Porto risquent la lourdeur. Le Fleuve d'Or est vraiment un film de Porto, où les matières sont palpables, même si je les ai tirées vers une espèce de magma volcanique de matière brûlante et liquéfiée. L'histoire du Fleuve d'Or est très ancienne. J'ai passé beaucoup de ma jeunesse à marcher le long du Douro et à rêvasser à des histoires d'amour liées à ce fleuve. Après nos vertes années, j'ai écrit une première mouture du Fleuve d'Or et cette version représente aujourd'hui un quart du film. Longtemps après, j'ai été intéressé par l'idée qu'un poème narratif pourrait m'aider à soutenir l'action, à trouver des situations plus directes, plus fortes. Au début des années 90, j'ai rencontré des lavandières sur le fleuve qui travaillaient à l'ancienne. Elles se racontaient des histoires salaces en riant ouvertement sur mon dos. C'était une scène très en chair, inoubliable, qui a été un choc et très certainement un déclencheur puissant pour le Fleuve d'Or. À ce moment-là, j'avais aussi entrepris d'écrire sur le Douro une demi-douzaine d'épisodes à propos de crimes de jalousie et inspirés de ballades populaires. Ça commençait à l'époque de l'invasion napoléonienne et ça courait jusqu'à nos jours. On retrouve dans le Fleuve d'Or beaucoup d'éléments de cette série. C'est à cet instant aussi que j'ai redécouvert ma passion pour les trains et les femmes garde-barrière. J'ai fait la connexion entre tous ces éléments. J'avais mon film, même si je ne savais pas encore comment j'allais faire voler la dame.
Vous parlez de l'explosive Isabelle Root ?
Isabelle Root est un peu ma comédienne fétiche. C'était une danseuse moderne dans les années 60. Elle est déjà présente dans nos vertes années. Sans elle, cette histoire aurait été impossible à imaginer. C'est écrit millimétriquement pour elle. Elle est démesurée, sa présence outrancière fait que tout devient vrai.
Vous êtes un cinéaste rare.
Le rythme de travail, c'est une question compliquée. Je peux filmer très vite et pratiquement sans y penser. Mais tant que je suis sous l'effet de l'obsession, le film ne sort pas. Comme pour une grossesse. J'attends. Je suis comme prisonnier. Mais c'est mon rythme, ça permet de cristalliser. J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans de vastes projets, comme l'aventure de l'île des Amours, à laquelle j'ai consacré près de 14 ans. Sans parler de mes activités en tant que président de l'Association des cinéastes portugais pendant 10 ans, qui m'ont valu de batailler ferme avec un gouvernement de centre-droit très inamical avec le cinéma, et donc d'être plus ou moins blacklisté quelque temps.
Pourriez-vous définir votre style ?
Si on met ensemble tous mes projets, y compris ceux qui n'ont pas été tournés, l'éventail des styles est très large, du goût pour le plan séquence à celui du collage à l'intérieur du plan. Disons que si les thèmes et les questions de mon cinéma ont beaucoup bougé, je continue de fonctionner à l'identique, par obsession. Je suis dévoré par certaines rencontres, certains endroits. Le travail de mise en scène est dans ce cadre une seconde nature. Face à mes films, on peut avoir le sentiment d'une mise en scène totalitaire, formalisée. Mais en vérité, je ne perds jamais une seconde à réfléchir à l'endroit où je vais poser ma caméra. Je vais à l'instinct, parce que je perçois l'espace de façon magnétique et très forte. J'essaye donc de me défendre, de me surprendre, en mettant dans mes films, chaque fois que je le peux, une part imprévisible de chaos. Écoutons un thème du film Cantiga de Arrua, Lisboa.
Thank you. das guitarras plangentes de amarguras, elas vieram, Lisboa dos pardais, Lisboa das cigarras, o sol batendo em cheio nos vidros da janela. Adeus, Lisboa, da velha alfama sombria, Lisboa da mouraria, Lisboa da tradição. Amém, Lisboa, cheia de luz e de cor. Lisboa do meu amor, amor do meu coração. Adeus, velha Lisboa, das canções dos pares de namorados, pelas esquinas das tardes outonais, da graça dos pregões, da cor verde do tejo, dos olhos das varitas. Adeus, Lisboa, da velha alfama sombria, Lisboa da mouraria, Lisboa da tradição. Amém, Lisboa, cheia de luz e de cor. Lisboa do meu amor, amor do meu coração.
Maximum de son, 96.9.
C'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Les deux prochaines semaines, nous prenons quelques jours de vacances. Ce seront donc des rediffusions. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. À l'année prochaine, je vous embrasse.
Et oui, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même, à la même heure, samedi prochain. Mais avec deux rediffusions, comme vient de vous le dire Hélène. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même fréquence. Passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël à vous tous. À l'année prochaine. À demain.